Bueno, mi nombre es Anaí.
Yo soy Natalia.
Mi nombre es Raquel Torres.
Mi nombre es Lorena.
Mi nombre es Fátima Acevedo.
Mi nombre es Belén.
Soy Carolina.
Mi nombre es Sol.
Bueno, mi nombre es Julieta Yursola.
Vivo en Ichocruz.
Je vis à Ichocruz, un village à côté de Villa Carlos Paz, dans la province de Córdoba.
Je suis céramiste.
Nací en Buenos Aires.
Je suis née à Buenos Aires, et ça fait 10 ans que je vis ici.
Estamos viviendo en Cachi.
On habite Cachi, dans un département de l'actuelle province de Salta. On est un territoire ancestral de Aguita.
J'ai un fils de presque 9 mois.
Pendant mon temps libre, je fais de la batucada.
En recherche d'emploi, je commence à travailler en psychologie.
Je suis diplômée en psychologie.
J'ai 38 ans.
Je suis d'ici, de Córdoba capitale.
Je suis principalement maman. La
construyendo juntos.
Et on est en train de construire ensemble ce que nous on appelle un monde nouveau. Un monde où il y a de la place pour d'autres mondes.
Donc être femme, c'est pas la même chose quand on est à la campagne, en zone rurale ou à la ville. C'est pas la même chose selon les classes sociales non plus.
Le fait d'être une femme et d'être mère change de signification. Et ça c'est génial parce qu'en fait il n'y a pas une seule façon de faire. Quand on dit un monde où il y a de la place pour d'autres mondes, c'est aussi ça, qu'il n'y a pas une seule vérité, une seule construction, mais plutôt qu'il y a beaucoup de possibles. Et qu'il est aussi possible de vivre ensemble avec cette diversité.
Moi, je ne suis pas femme, je suis Gwyn et je suis Gwyn Chonga.
Ne me dis pas que je suis une femme parce que je ne me sens pas femme, mais il y a aussi des femmes Gwyn qui se sentent femmes, mais qui ne se reconnaissent pas dans cette femme stéréotypée.
En fait, quand j'utilise le terme « la femme », en général, c'est pour parler du stéréotype qu'on a de la femme. Alors que quand j'utilise le terme « les femmes », c'est plutôt pour parler d'un ensemble, de l'ensemble des femmes.
Et face à une situation de conflit,
c'est les femmes qui allons au front échanger avec la police pour essayer d'échanger leur avis, pour gagner qu'il revient à notre jour, qu'il nous donne 2-3 heures de plus. Pendant ce temps-là, les hommes s'organisent pour faire face aux événements qui arrivent, que ne sont jamais une bonne nouvelle.
Mais qui participent de ce dialogue sont les femmes.
En tout cas, celles qui participent dans cette discussion avec la police, ce sont nous, les femmes. Quand il y a un tracteur qui arrive, qui veut abattre une maison ou détruire la production, ce sont nous, les femmes, qui allons devant faire face, parce qu'ils ne vont jamais rouler dessus une femme. Ils ne vont pas le faire.
En
ce genre de situation, le rôle des femmes est pour moi très puissant.
Une proposition pour rendre visible le fait que dans la catégorie de femmes ou des femmes, il y a plusieurs manières d'être femme. Par exemple, pour commencer à lutter contre les stéréotypes de la femme. Du coup, il y a une proposition de se dire que être femme, c'est aussi est-ce que je m'épile, est-ce que je m'épile pas, est-ce que je suis Gwyn, est-ce que je suis pas, etc.
Del pueblo de Aguita siempre hablamos de la dualidad.
Dans le peuple diaguita, on parle toujours de la dualité. C'est-à-dire que homme et femme, on n'est pas seulement complémentaire, un rôle et une tâche, mais on est aussi dual. On a tous un peu de masculin et de féminin dans chacun de nous.
El punto es que por ahí la sociedad occidental nos ha llevado a visibilizar.
Mais la société occidentale nous a amené à,
y de ahí que
à mettre en avant
una mujer plus juega la pelota,
un de ceux deux côtés de la dualité. Et c'est de là qui viennent des stéréotypes, comme par exemple si on voit une femme qui joue au foot, il a l'air d'être un homme, alors que non, c'est juste une femme qui joue au foot.
Pero bueno, porque no se observa.
Mais bon, c'est parce que parfois on ne voit pas cette dualité comme quelque chose de positif. On voit c'est un homme ou c'est une femme, alors que non, on est les deux choses, on est dual.
Para mí no es el desafío, es que dentro de las mujeres que estamos, mujeres lesbianas, trans, travestis, que habitamos las grandes urbes como Córdoba, Buenos Aires, en Argentina.
Un des grands défis pour nous les femmes qui, oui, nous trans, qui habitons dans les grandes villes, à Córdoba ou à Buenos Aires en Argentine, et, c'est que nous continuons de penser à ne pas opprimer ces autres femmes, ces autres identités féminines qui viennent de la campagne, des communautés autochtones, de ces lieux oubliés qui ont moins d'accès. Parfois, notre discours est très libéral, très individualiste. Notre lutte, c'est parce que moi, je veux si, moi, je veux avorter. Et les regards des féminismes communautaires ont une autre perspective, une autre ontologie du monde, de se penser comme partie d'une communauté, d'une terre, et donc moi je vais lutter pour mon territoire, pour ce fleuve, pour cette semence, pour avoir accès à la souveraineté alimentaire. C'est aussi le corps comme territoire, le territoire du corps féminin. Pour moi, je le vois comme un défi de ne pas perdre de vue cet autre son de cloche qui ici n'est pas le plus fort, à Córdoba plus particulièrement.
Eso, que el feminismo no siga los feminismos, no sigamos pensando en que este cambio, en esta transformación social no siga oprimiendo, digamos, si queremos otra cosa.
Et donc les féminismes ne continuent pas de penser que ce changement, cette transformation sociale ne reproduise pas ces oppressions que nous voulons, nous, autre chose. Il s'agit de penser d'autres logiques, de ne pas tomber dans le piège de reproduire ce que l'on critique, c'est-à-dire d'opprimer la femme noire ou la femme pauvre, parce que c'est là qu'on discrimine, en fait, que l'on oublie d'écouter les femmes qui sont dans d'autres situations. Et que, par exemple, moi, je veux être mère, moi, je veux cuisiner. Pour moi, c'est la cuisine, c'est un espace de pouvoir. Bref, c'est ça, le grand défi.
J'ai entamé ce voyage sur le continent au Nicaragua, chez Fati. C'est chez elle que j'ai vu pour la première fois des stickers de Ni Una Menos. C'est avec elle que j'ai eu mes premières discussions sur la situation des femmes et des féminismes de ce côté de l'Atlantique. Avant de la quitter, j'ai enregistré son parcours féministe et ses analyses sur la situation dans son pays aujourd'hui. Une semaine après s'être séparée, Fati est décédée brutalement. Fati, on pense à toi. Tu vois, le combat continue.
Puis on s'est retrouvés en Argentine toutes les trois. Trois Françaises chargées de bagages remplis de récits de violences gynéco, de quelques remèdes d'ail et de yaourt, d'une idée de la maternité vue comme un frein à l'épanouissement personnel, d'une pensée façonnée par des briques d'intersectionnalité et des ardoises de lutte sociale et historique.
On les a posés, ces bagages, au milieu des constructions théoriques du continent latino-américain. On a mis du temps à s'ouvrir à des féminismes qui tâchent de se décoloniser de l'influence européenne. On a rencontré des femmes paysannes, mères, divorcées, enseignantes, artisanes, lesbiennes ou voyageuses.
On s'est confrontés à de très jeunes femmes pour qui devenir mère signifie acquérir un statut social, au poids de l'Église catholique, au harcèlement de rue, au machisme dans l'espace politique, à un certain essentialisme, au féminicide et aux disparitions d'adolescentes.
Mais aussi au réseau clandestin d'aide à l'avortement, aux manifs à 80 000 femmes, au boucher qui devient bouchère à 50 ans, à des cercles utérins, à des féminismes communautaires variés et déterminés.
On a parlé accouchement respecté, corps-territoire, privilèges masculins. On a vu des centaines de graphes, écouté des rappeuses déterminées et lu des articles éclairants.
On a choisi de faire de tous ces sons deux émissions qui peuvent s'écouter à la suite, ou pas. Dans ce premier volet, nous allons entendre parler de ce que c'est qu'être une femme en Argentine aujourd'hui, et une petite fille,
de la distinction des rôles que la société assigne aux hommes et aux femmes, et des violences subies depuis la naissance. On vous souhaite de vous remplir de tout ça
pour se juger moins et se sororiser plus.
Bon, je le vois partout dans le village. Une fille est une fille, un garçon est un garçon. La fille peut aider maman à faire le ménage, pas le garçon. Et on voit partout la différence. Je ne pense pas que cette question soit encore résolue. Il y a encore un bout de chemin à faire.
Desde cosas muy básicas, en la, cuando son más bien chiquitos, a mí me pasó
con. Alors, déjà dans l'enfance, par exemple, ma fille, quand elle était petite, je
mettais ropa de color rosa, par exemple, et no le puse aritos.
Je l'habillais pas en rose, je lui ai pas percé les oreilles. Donc, ça paraît futile comme ça, mais en fait, on la confondait souvent avec un garçon. Justement parce qu'elle n'avait pas ces marques qui font qu'on appartient à un sexe ou à un autre.
Peut-être
au fur et à mesure du temps, ça a changé. Si je repense à mon éducation de mon enfance il y a 30 ans et comment aujourd'hui ils élèvent mes neveux ou d'autres enfants d'aujourd'hui.
Sí, creo que ha habido algunas transformaciones.
Oui, je crois qu'il y a eu quelques changements, mais je ne pense pas que ce soit une pratique majoritaire. Je peux voir quelques espaces dans lesquels ça, on pense, on réfléchit, on questionne l'éducation autant du côté des mères que des pères. Et comment, à partir de là, on met en place des formes d'éducation beaucoup plus critiques et on permet que les filles et les garçons explorent des rôles sociaux sans que ce soit trop traversé par le fait de ça c'est pour les petites filles et ça c'est pour les petits garçons. Mais je pense que ça c'est dans certains réseaux et c'est pas dans la majorité de la société. Et sans aller si loin, moi je pense aux espaces de socialisation qui sont institués par l'État, qui sont les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires. Et je vois pas que ces espaces sont traversés par ces questionnements-là.
Non, en absolu. Je travaille dans une école, en la primaria.
Oui, effectivement, c'est pas le cas. Moi, je travaille dans une école primaire et la question de la distinction entre filles et garçons, partout, du tablier des filles qui s'attachent par derrière et qu'elles peuvent pas mettre toutes seules,
la division en las filas,
la séparation en deux files, les jeux, toi tu peux pas jouer au foot, tu dois être plus féminine, fais attention que les garçons ne te tapent pas parce que toi t'es plus faible, ils vont toujours te battre.
Par exemple, il y a un garçon qui s'appelle Joachim et il veut mettre ce pantalon rose. Est-ce qu'il peut mettre ce pantalon ?
Non, parce que c'est un pantalon de fille.
Le pantalon ? Et comment tu sais que c'est un pantalon de fille ?
Parce que les filles, elles aiment le rose.
Les filles aiment le rose ? Felipe, toi, tu aimes le rose ?
Mais mon papa, il aime un petit peu le rose.
Chez nous, il y a toujours les jouets en bordel. Et parfois, tu vois Vicente avec la poupée. Et des fois, tu vois Antonio avec les voitures. Et moi, je le remarque. Je les laisse faire. Je vais continuer à les laisser faire. Et j'essaye de me dire, bon, il faut qu'ils jouent avec ce qu'ils veulent jouer. Elle se déguise en Spider-Man, Antonia. Elle adore se déguiser en Spider-Man. Et moi, je le remarque. Enfin, c'est ça ce que je veux dire. Je me rends compte. C'est pas si naturel que ça. Ça m'interpelle, tout simplement. Mais c'est important de se rendre compte de ça et qu'avec le temps, ça devienne naturel de voir ça. Que chacun et chacune se déguise de ce qu'il a envie de se déguiser.
Et si une petite fille, par exemple Romina, vient ici qu'il y a un pull bleu, elle peut le mettre, ce pull ?
Parce que c'est un pull de garçon.
Oui, moi j'ai un pull bleu.
Pero más allá de algunas familias, la mayoría de los niños y las niñas entran.
Mais en dehors de certaines familles, la plupart des enfants rentrent dans le système éducatif et dans les crèches et les écoles maternelles qui sont les endroits où les enfants jouent le plus et où ils explorent ces rôles. Il continue à y avoir cette division entre le moment d'aller jouer à la poupée pour elle.
El rincón del hogar, que es el rincón donde está la cocina, la cama.
Ouais, le coin cuisine, le coin dinette, le lit, là où sont les poupées, c'est l'espace des femmes en fait. Dans le jardin d'enfants où je travaille, il y a un petit garçon qui voulait y aller. Et lui a dit « Non, non, toi tu dois jouer dehors. Même les espaces où il joue. Dehors c'est pour les garçons, c'est très différencié. Le coin dinette c'est pour les filles. »
Se necesita éducation.
Il y a un besoin d'éducation pour réveiller les consciences, pour qu'on aille vers des relations plus égalitaires et plus humaines.
En que todos caminemos hacia unas relaciones más igualitarias, más humanas.
Los niños en los primeros años aprenden a partir de la meditación.
Tout petit,
ils apprennent par l'imitation. Et si le modèle qu'ils s'observent, c'est de la mère toujours en train de faire la cuisine, et les pères toujours en travaillant dehors, même si on ne leur dit pas, ou même si on leur dit, non, les femmes et les hommes, on est égaux, ils observent autre chose. Et c'est pour ça que c'est aussi une responsabilité des adultes de leur montrer des situations concrètes où on voit qu'on peut aussi vivre dans un monde plus égalitaire.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo.
Dicen que la tengo, dicen que la pongo.
Que dan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así.
A mí,
lo que desea.
A mí,
que mi polis sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así.
A mí,
baila pa' mí.
A mí,
que mi polis sabe bien lo que está pasando aquí, dando mando. Soy torta o la como, la negra cool a mi manera. Tengo mi propio mambo, mi gozadera de un
barrio.
El sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Seguir poniendo todo el tiempo.
¡Cumbia!
Porque para mí es necesario bien
barrio.
Con el sonido que se baila en el
barrio.
Y no me importa si me para el comisario. Seguir poniendo todo el tiempo.
¡Cumbia!
Porque para mí es necesario.
Lo difícil que me resultaba siempre vincularme con mujeres en general, de chica, en la escuela sobre todo.
Pour moi, depuis l'enfance, ça a toujours été difficile de tisser des liens avec les femmes en général, et surtout à l'école. Pour moi, le langage masculin a toujours été plus facile, alors que la compétition féminine, c'était quelque chose qui me faisait peur et qui me faisait halluciner. Cette impression de concurrence permanente et d'être tout le temps en train de se comparer à l'autre. Après, en repensant à mon enfance et à tout ça, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui m'avait marqué profondément. Alors oui, il y a un paquet de choses à déconstruire.
Y volviendo a eso de por ahí mi infancia, de cómo me costaba mucho más conectarme con las mujeres que los hombres.
Et pour revenir à mon enfance, et comment c'était beaucoup plus difficile de me lier avec les filles qu'avec les garçons. C'était un peu ça aussi. J'avais trop envie de... Ils se retrouvent pour jouer. Un jeu. Et les règles sont sans conséquences et n'ont rien à voir avec les règles de la vie. Et on peut tout mettre en pause et jouer. Et quand c'est qu'on fait ça, nous, les femmes, se retrouver pour jouer? Moi, je ne l'ai jamais fait. Jamais. On s'est retrouvés pour jouer avec mes copines, alors que j'adorerais faire ça. Et quand j'étais enfant, je me disais en regardant les garçons, trop cool ce que vous faites. Et maintenant, je suis grande. Ou un peu plus grande. Et je vois bien que c'est toujours pareil. Et qu'il y a un paquet de choses qui continuent de se passer de la même façon. Ils se retrouvent deux fois par semaine. Et pendant trois heures, ils jouent au foot. Chose que jamais les femmes ne feraient sans leurs enfants. Jamais. Elles ont du mal à faire ça, elles. Et construire ça, le générer et le soutenir, c'est de la responsabilité de tout le monde. Et tout ça, je le vois et je me dis, mais comment c'est possible? Allez, crier! Crier parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. C'est un espace de détente, on se rencontre avec d'autres, où on partage ce qu'on a fait de notre semaine, où on décharge tout. Et cet espace, les femmes ne l'ont pas, ne le cherchent pas, ou en tout cas, elles ne le trouvent pas.
Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre que le mec fort vienne porter le frigo? Je sais pas, moi, je peux aussi le porter avec ma mère, ce frigo. Ou au pire, j'appelle une copine, quoi.
Pero algo que me hace ruido y que me genera como bronca, y sobre todo por cuán naturalizado lo tengo y lo tenemos en, por ahí en mi círculo cotidiano, es
quelque chose qui me fout la rage, surtout à cause de la manière dont moi, ou nous, dans mon entourage au quotidien, on a ancré ça comme quelque chose de naturel. C'est la différence dans les rôles entre femmes et hommes à l'intérieur des foyers. Comment les tâches, les activités, les responsabilités se répartissent. Ça, en ce moment, c'est quelque chose qui me rogne et qui me dérange.
En mí misma, como más allá de mi pareja, como hay situaciones.
Quand j'y réfléchis, au-delà de ce qui se passe dans mon couple, je me rends compte qu'il y a des situations que je suis en train d'essentialiser. Et quand je prends du recul, je me dis, arrête, c'est déprimant.
Aquí particularmente en el territorio, por ejemplo, las mujeres son las sabedoras de recetas
ancestrales. En particulier dans le territoire, c'est les femmes qui détiennent le savoir ancestral des recettes de cuisine.
Depende del tamaño de las
ollas, de la fabrication des marmites intercuites pour cuire, préparer ces aliments. En fonction de la taille de la marmite, du type d'argile ou de terpite qu'il faut pour la produire, elles savent combien de temps il faut pour la fabriquer et à quel aliment elles vont servir. Et ça, ce n'est pas les hommes qui le font, c'est les femmes. Les hommes, ils regardent, ils apprennent, mais c'est les femmes qui le font. Mais ce n'est pas eux qui fabriquent ces marmites-là.
Et les mujeres, niñas, de a poquito van aprendiendo de sus abuelos,
et les femmes,
de sus madres, esa,
dès qu'elles sont petites, elles apprennent petit à petit cette histoire par des grand-mères ou des mères. C'est un espace de protection et de soins du territoire. Les femmes, dans le territoire, nous avons le savoir de quelles sont les plantes qui soignent, d'où on peut obtenir la terre cuite, à quel moment de la journée on peut déposer les animaux. Les femmes, on se charge de l'accouplement des animaux, et de prendre soin de tous ces animaux, donc la femme est la mère aussi de tous les animaux.
Si je vais tout près d'ici, dans le quartier de Solares, la réalité elle est très différente. Elles ont beaucoup d'enfants, le type il les paie pour qu'elles fassent les choses de la maison. Elles font les courses, elles font le ménage, certains d'entre eux sont violents, et c'est comme ça. J'ai animé un atelier de céramique à Pueblo Grande, ici au centre culturel. On a fait deux sculptures de deux femmes. Il y a énormément de femmes qui sont venues. C'était la semaine du droit des femmes et j'ai demandé à chacune d'entre elles qu'elles se présentent et qu'elles disent ce qu'était pour elles qu'être une femme. Et ça a été vraiment très très fort ce que chacune d'entre elles a pu dire.
Et bueno, ser mamá, estar en la casa, viste como...
Être maman, rester à la maison, des choses basiques en fait, les choses basiques qu'on nous a imposées depuis toujours sur ce que c'était qu'être une femme. Et donc il faut essayer d'aller vers ces femmes, et c'est délicat, c'est difficile.
No entienden, vos les dices el feminismo.
Tu leur dis le féminisme. C'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de conceptualiser autant et essayer de chercher d'autres façons pour arriver à atteindre des personnes avec des mentalités différentes.
Ni hablar, a mí me pasa mucho que acá.
N'en parle pas. Moi, ça m'arrive souvent dans le village avec la bouteille de gaz. Quand je vais l'acheter dans le village, c'est étonnant de voir une femme soulever une bouteille de gaz et la mettre dans la voiture. Mais moi, j'en ai l'habitude. Je vais l'acheter, je la charge, je reviens chez moi, je la change. Et c'est tout. Normal, quoi.
Psychologie et les carrières de la santé.
La psychologie, les filières de la santé qui sont orientées vers le service à la personne, en fait, sont généralement des filières féminines. Elles sont liées aux soins.
Il y a algunos estudios en la universidad que analizan las violencias en las facultades de medicina.
À l'université, il y a des étudiants qui ont analysé les violences dans les universités. En médecine, ils identifient quelles universités sont des territoires majoritairement masculinisés et les autres qui sont féminisées. Les facs de sciences dures, de physique chimie, d'agronomie, qui sont des territoires masculinisés, ont des meilleures conditions d'études.
Et les autres qui sont comme plus... de las sociales, de la salud, de los cuidados.
Et les autres qui sont liés aux soins, à la santé, donc féminisés, ont tendance à être plus précarisés dans plein d'aspects.
En soi, la formation, au moins dans les 5 ans qui est la durée de la formation dans l'université de Córdoba, où nous nous sommes formés, on peut dire que statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est un peu surprenant après dans l'insertion professionnelle, et où on voit que même si on ne prend pas en compte que la psychologie, il y a plus d'hommes qui travaillent que de femmes. Quelle que soit la branche de la psychologie, il y a plus d'hommes que de femmes qui travaillent. Ce qui me fait dire, qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre nous en chemin ?
Intento sentirme que soy igual, sé que no.
Moi, j'essaye de faire comme si, comme si on était égaux, mais je sais que non. Et précisément à cause de ces modèles qui sont installés socialement. Par exemple, dans le monde du travail, les femmes ont beaucoup moins d'opportunités. Dans le monde de la recherche ou de la science, elles sont moins nombreuses.
Et dans la vie quotidienne, lo vemos todos los días, la mayoría de las mujeres son las que van a buscar a los chicos.
Dans la vie quotidienne, ce sont toujours les femmes qui vont chercher les enfants à la crèche ou à l'école, qui font les travaux domestiques, etc. Du coup, le rôle de la femme, il est très marqué. C'est elle qui, en général, doit prendre soin des enfants et elle garde ce rôle toute sa vie.
Prácticamente la vida en ese rôle.
Et donc, ce rôle-là qu'on lui assigne à la femme, ça met au second plan sa vie professionnelle et le temps libre, n'en parlons même pas. Par exemple, le temps juste de s'occuper de soi-même, en dehors même de l'activité professionnelle.
Et là, on en arrive aux différences. Moi, quand j'étais enceinte, je ne la portais pas, la bouteille de gaz. Hein. Et là, concrètement, comme on habite à deux avec Sebi, oui, je l'attendais pour charger la bouteille. Et oui, là, on voit une différence entre l'homme et la femme. Une femme, elle traverse des étapes dans sa vie où elle est obligée de s'arrêter. En tant que femme, tu le vis dans ton corps.
De una cosa muy tonta, pero bueno, acá en Argentina
il y a une chose par exemple un peu anecdotique, le barbecue qui en Argentine a une importance fondamentale et qui en général est fait par les hommes.
Sí, unos modelos que no son elegidos, sino que bueno,
c'est pas une fonction qui est choisie, mais qui est attribuée par la société, la famille. En gros, c'est une construction culturelle. Et ça, bah, moi, c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire dans mon couple il y a quelques années, parce que non, tous les hommes ne savent pas naturellement faire le barbecue. Du coup, j'ai décidé d'apprendre. Et ensuite, j'ai appris aussi à mes copines à le faire. Du coup, en général, s'il n'existe pas de volonté de reconstruire ou de repenser ces modèles, ils se reproduisent de manière automatique.
Et bien sûr qu'on est capable de porter une bouteille de gaz, un frigo, des meubles, trois gosses. Si nous, on n'est pas fortes, alors qu'est-ce que c'est la force ?
Lamentablemente, sí, la mujer sufre mucho el acoso acá. Desde, si ustedes se ponen a caminar.
Malheureusement, ici, la femme souffre beaucoup de harcèlement. Il suffit de sortir de chez soi et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui, tout à coup, pensant faire un compliment, vous disent « Vous êtes jolie, mademoiselle » ou des trucs comme ça. Et cela devient souvent du harcèlement.
Et la gente lo ve como algo normal, de que un hombre venga y pueda decirte cosas.
Et les gens trouvent ça normal, qu'un homme vienne te dire des trucs ou veuille que tu fasses attention à lui, ou insiste même quand tu lui montres que tu ne veux pas. Même ça, les gens trouvent ça hyper normal.
Le poser comme du harcèlement, c'est un acte d'autodéfense collective pour la plupart des femmes qui ne vont pas recevoir ce type de commentaires. Et en le posant comme tel, l'autre commence à le recevoir comme une limite, enfin certains.
Et en gros, moi, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi il y a autant de féminicides. Mais d'un certain côté, je sais que l'homme a toujours eu une relation d'appropriation avec la nature, de s'approprier les ressources naturelles. Et j'ai l'impression que c'est pareil avec le corps des femmes, qui sont compris comme des ressources, que ce soit pour la maternité ou le travail, le corps de la femme comme une ressource à posséder. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un enjeu de pouvoir.
Puede sin el hombre, me parece. Y eso es lo que más molesta.
Et même une négation du fait que l'autre peut exister sans l'homme. Et ça, c'est ce qui me dérange le plus. Et c'est pour ça que je crois qu'en Argentine, contrairement à ce qu'on pense, il y a une grande mobilisation sociale chaque fois plus importante par rapport aux droits des femmes, etc. Et bah, d'un autre côté, il y a de plus en plus de féminicides. Donc ils continuent en fait de contrôler nos corps, et comme ils continuent de contrôler la nature. En gros, j'ai l'impression que plus les revendications augmentent et plus les femmes exigent des choses, plus il y a des réactions contre, comme une espèce de résistance à ce changement. Et du coup, c'est pour ça qu'il continue à y avoir, enfin, qu'il y a de plus en plus de féminicides.
Pues que a inicios de este año en una zona del país aquí de lo que se le llama el Triángulo Minero.
Au début de cette année, dans une région du pays qui s'appelle el Triángulo Minero, il y a une jeune femme qui a été brûlée vive. Elle s'appelait Vilma Trujillo. Elle s'appelait parce qu'elle est morte. Cette femme qui avait des enfants faisait partie d'une paroisse. Elle appartenait à une famille de paysans. Le pasteur, c'est-à-dire le leader de cette église, et son frère se sont dit « on va brûler cette femme parce qu'elle est possédée par le diable ». Et pendant une semaine, ils l'ont enfermée dans une cabane à côté de l'église jusqu'à ce qu'ils décident de la brûler. Et ils l'ont mise vivante dans le feu et son corps a été très gravement brûlé.
Et je ne sais pas si la famille... de esta mujer de Vilma Trujillo, Trujillo lo sabían, pero confiaban en que la iglesia.
Je ne sais pas si la famille de Vilma Trujillo savait ce qui se passait. Mais en tout cas, ils avaient confiance dans le fait que le pasteur et son frère l'aidaient.
La trajeron a ella muy mal.
Quand son mari et sa sœur sont arrivés sur le lieu, il n'y avait plus rien à faire.
Il murió.
L'ont emmené ici à Managua. Dans un état très grave et elle est morte à l'hôpital.
Entonces, para mí, eso es increíble que haya pasado.
Pour moi, c'est incroyable que cette histoire soit passée cette année, en 2017, dans ce pays. C'est incroyable que les hommes puissent ôter la vie des femmes et qu'ils se sentent le droit de le faire.
Eso pasó en una comunidad. Y no quiere decir que no están pasando cosas en el área urbana.
Et tout s'est passé dans un petit village. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses macabres qui ne se passent pas dans les plus grandes villes contre les femmes, comme par exemple le cas d'un homme qui a décapité sa compagne en août. Et ce type de violence extrême qui ôte la vie à des femmes se passe à tous les niveaux.
Y es que lo que pasa es que lamentablemente si ustedes ven un poco de lo que son las estadísticas en cuanto a lo que son los femicidios.
Ce qui se passe malheureusement si vous regardez un peu les statistiques de féminicides, c'est que l'Amérique latine est en première position. Ici, il y a plein de féminicides qui ont lieu dans le cadre familial.
Ustedes pueden ver cualquier diario o información en internet y todos los días.
Tu peux voir dans n'importe quel journal ou sur Internet que tous les jours il y a un homme qui tue sa femme par jalousie ou quelque chose comme ça.
Entre ayer y anteayer, sucedieron en Córdoba diferentes hechos de secuestros en ciudad universitaria.
Entre hier et avant-hier, il y a eu à Córdoba plusieurs faits d'enlèvement au sein de l'université. C'est des filles, enfin des femmes, des jeunes. Du coup, aujourd'hui venait, enfin hier, enfin c'est deux jours où il s'est passé six trucs. Et il y a deux jours, la ministre de la Sécurité venait à Córdoba pour faire un accord avec le gouverneur de la province pour renforcer les politiques de sécurité. Le campus universitaire est un endroit où la police de la province ne peut pas être parce que le campus est un territoire national.
Donc,
une part de cet accord, c'est que la gendarmerie puisse venir sur le campus. Alors que la police est la première à être dans le trafic de femmes en défendant ses réseaux. Et voilà, et ces situations sont complexes à analyser. Et je veux dire, des plaintes de filles qui ont été enlevées dans les quartiers plus reculés, dans les endroits plus pauvres de Córdoba. Il y en a toujours eu, mais là, il y a une alerte spécifique parce que c'est sur le campus universitaire, les 5 cas ont eu lieu sur le campus universitaire. Et c'est fou comme ce genre de fait peut servir la politique publique de sécurité, a servi certaines classes sociales.
Y me lleva a pensar a por qué el feminismo refuerza la apuesta de implicar a cada vez más y más mujeres.
Et ça m'amène à comprendre pourquoi les féminismes incluent de plus en plus de personnes différentes. C'est un mouvement qui ne cherche pas à parler à la place de quelqu'un ou pour personne, parce que c'est un mouvement qui ne cherche pas à parler à la place des gens. Ce mouvement implique des camarades, des femmes, des gouines, des trans, de différentes classes sociales, avec un accès différent à l'information, d'ethnies différentes, des femmes de la ville, des femmes marginales, des femmes de zones rurales. C'est parce que c'est un mouvement qui cherche que, en notre propre nom, on puisse prendre en charge collectivement les problèmes et qu'on trouve des solutions collectivement à certaines situations.
C'est quelque chose que la technologie a también ha ido facilitando, ¿no? El hecho de la comunicación.
De nos jours, tu peux communiquer avec une personne qui est en Bolivie ou au Mexique ou n'importe où et savoir quelle est la situation là-bas. La technologie le permet, ça facilite la communication.
Te das cuenta que comunicándote con otra gente en otros países están sufriendo lo mismo.
Quand tu communiques avec d'autres personnes d'autres pays, tu te rends compte qu'ailleurs les personnes subissent la même chose que ce qui se passe chez toi. Du coup, on commence à s'unir et ça provoque une réaction en chaîne pour que les choses changent.
On est en train d'écouter Songs and Poems for Solo Cello de Philippe Glass et Wendy Sutter, et on a aussi entendu dans cette émission Keno Keno de Las Taradas. On se quitte là pour cette première partie. On retrouvera Fatih, Lorena, Belén, Natalia, Raquel, Julieta, Anaï, Caro et Sol dans la deuxième, qui nous parleront de ce que c'est qu'être mère et de ne pas l'être, d'accoucher, d'avorter et de se rassembler. Vous pouvez retrouver les deux parties de cette émission en castillan et en français sur la plateforme Hear This, hearthis.at/lacucaracha. Bonne écoute!
Bonjour, vous savez qu'une nouvelle radio fait sa révolution chez Radio Galère?
Ah oui!
Oui, c'est numérique, gratuit et anonyme et ça s'appelle le DAB+. Son et réception de meilleure qualité, et prochainement, une nouvelle couverture de diffusion sur Aubagne sera déployée.
Et comment on pourra s'équiper?
Oh, c'est simple! Un poste compatible DAB+ ou un adaptateur et ça fera l'affaire.
Bueno. Mi nombre es Anaï.
Je suis Natalia.
Mi nombre es Raquel Torres.
Mi nombre es Lorena.
Mi nombre es Fátima Acevedo.
Mi nombre es Belén.
Soy Carolina.
Mi nombre es Sol.
Bueno, mi nombre es Julieta Yurzola.
Vivo en...
Je vis à Icho Cruz, un village à côté de Villa Carlos Paz, dans la province de Córdoba.
Je suis céramiste.
Je suis née à Buenos Aires, mais ça fait 10 ans que je vis ici.
Estamos viviendo en Cachi.
On habite Cachi, dans un département de l'actuelle province de Salta. On est un territoire ancestral de Aguita.
J'ai un fils de presque 9 mois.
Pendant mon temps libre, je fais de la batucada.
En recherche d'emploi, je commence à travailler en psychologie. Je suis diplômée en psychologie.
J'ai 38 ans.
Je suis d'ici, de Córdoba capitale.
Je suis principalement maman. La
construyendo juntos.
Et on est en train de construire ensemble ce que nous on appelle un monde plus beau. Un monde où il y a de la place pour d'autres mondes.
La cucaracha.
Cette émission a été pensée comme une seconde partie. Nous avons réalisé l'émission à trois Françaises qui ont passé du temps dans la province de Cordoba.
Trois Françaises chargées de bagages remplis de récits de violences gynéco, de quelques remèdes d'ail et de yaourt, d'une idée de la maternité vue comme un frein à l'épanouissement personnel, d'une pensée façonnée par des briques d'intersectionnalité et des ardoises de lutte sociale et historique.
On les a posées, ces bagages, au milieu des constructions théoriques du continent latino-américain. On a mis du temps à s'ouvrir à des féminismes qui tâchent de se décoloniser de l'influence européenne. On a rencontré des femmes paysannes, mères, divorcées, enseignantes, artisanes, lesbiennes ou voyageuses.
On s'est confronté à de très jeunes femmes pour qui devenir mère signifie acquérir un statut social, au poids de l'Église catholique, au harcèlement de rue, au machisme dans l'espace politique, à un certain essentialisme, au féminicide et aux disparitions d'adolescentes.
Mais aussi au réseau clandestin d'aide à l'avortement, aux manifs à 80 000 femmes, au boucher qui devient bouchère à 50 ans, à des cercles utérins, à des féminismes communautaires, variés et déterminés.
On a parlé accouchement respecté, corps-territoire, privilèges masculins. On a vu des centaines de graphes, écouté des rappeuses déterminées et lu des articles éclairants.
On a choisi de faire de tous ces sons deux émissions qui peuvent s'écouter à la suite, ou pas.
Ce deuxième volet aborde quelques réalités et récits de ce qu'aujourd'hui ça peut vouloir dire d'être mère et de ne pas l'être en Argentine. D'accoucher, d'avorter et de se réunir. Bonne écoute.
Amadeo no quería salir de mi panza, ya estaba de 42 semanas y había un riesgo del bebé y yo no lo quería, bueno, no quería más esperar.
Amadeo ne voulait pas sortir de mon ventre. Moi j'étais enceinte déjà de 42 semaines et il y avait un risque pour le bébé. Et moi, je ne voulais plus attendre, et donc je suis arrivée dans un hôpital public d'ici, de Cordoba. Ils m'ont fait monter sur un fauteuil roulant, ils m'ont emmenée dans une chambre, ils m'ont dit de me déshabiller, ils m'ont dit d'aller prendre une douche, ils m'ont donné un sac avec du savon et puis une de ces blouses qu'on te donne dans les hôpitaux. Moi,
je
n'arrivais pas à le croire, moi, je venais d'ici, de chez moi, et puis d'un coup, je suis rentrée sous la douche, il faisait très très froid. Et ça, pour moi, ça a été beaucoup de violence. Je me suis douchée comme ça, sous un tout petit filet d'eau. Je suis sortie. Je ne veux pas l'oublier. Moi, j'étais toute nue. J'avais juste cette blouse qui était ouverte derrière. On voyait tout derrière. Ils ont mis un carton sur le fauteuil roulant. Et moi, je leur ai demandé, mais enfin, pourquoi il faut que je me déplace en fauteuil roulant? Et en fait, ils pensaient que le travail d'accouchement avait déjà commencé. Et ils avaient mis un carton au cas où je perdrais les os. Et moi, je leur disais, mais non, je ne suis pas dilatée encore. Enfin, pour leur dire, tranquille. Mais non, il n'y a pas eu moyen. Ils ont mis le carton. Je me suis assise sur le carton avec mes fesses qui étaient appuyées contre ce carton.
Ahí empezó todo. Las primeras horas fueron de violencia verbal.
Et c'est à partir de là que tout a commencé. Les premières heures, ça a été de la violence verbale. Que j'étais vieille, que j'étais folle, que j'étais à 42 semaines de grossesse et que j'étais jamais venue consulter dans cet hôpital. Une femme de 38 ans, 42 semaines de grossesse, c'était toutes des femmes. Ça, c'est quelque chose qui m'a semblé vraiment fou parce que c'est pas quelque chose qui m'est arrivé avec les hommes. Les deux ou trois médecins hommes qui se sont adressés à moi étaient beaucoup plus chaleureux que les femmes. Quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que à un moment donné, il y a une femme qui vient vers moi. Moi, j'étais dans un lit, dans une chambre très très grande, pleine de femmes. De femmes en train d'accoucher, en train de pleurer, de crier et seules. Elles étaient toutes seules. Et moi, j'étais là avec mon ventre et elle s'approche de moi et elle me dit...
T'as
mis des années, non, à tomber enceinte parce que t'as 38 ans. Et moi, je lui ai répondu, non, pas du tout, en un mois.
Vi en su mirada. No sé, como que le generó bronca.
Et je l'ai regardé, et j'ai vu dans son regard, je sais pas, comme si en fait ça la mettait en colère. Elles ont commencé à me poser plein de questions, dans un état où moi, je me sentais très très vulnérable. Ça faisait deux semaines déjà que j'avais passé les 40 semaines de grossesse. J'avais très peur, et puis j'étais toute seule. Ensuite, Martin, mon compagnon, a pu entrer J'ai passé toute la nuit avec le monitoring et le matin, j'ai décidé de demander la césarienne. Après que notre groupe de femmes soit venu et elles parlaient comme si moi j'étais un bout de viande. Non, on va faire ça et puis on va faire ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, je les arrête et je leur dise « Non, ça c'est moi et c'est moi qui vais décider. » En fait, elles voulaient provoquer l'accouchement. Et moi, ça faisait 2 jours que je dormais pas, ça faisait 24 heures que j'avais rien mangé. Et elles voulaient m'injecter de l'ocytocine de synthèse pour provoquer l'accouchement. Et là, moi j'ai dit non. Surtout que je savais qu'elle m'injectait l'ocytocine et après je devais rester toute seule parce que Marta ne pouvait pas, pas rester pendant dans la salle où se déroulait le travail d'accouchement. Moi je ne voulais pas de césarienne, j'étais morte de peur, j'avais peur de la chirurgie. Mais à ce moment-là, j'ai décidé ce qui me semblait le mieux pour moi et pour Amadeo. Et bon, ça s'est passé comme ça. Amadeo est né, ils l'ont pris. Moi, je suis restée toute seule. Martine, bien sûr, n'avait pas pu assister à la césarienne. Et il n'a pas pu non plus être avec moi juste après l'opération. À peu près 3 heures après la naissance d'Amadeo, j'ai pu voir Martine. Et Amadeo, à peu près 1h30 ou 2 heures après. C'est pas mal de temps. Il y a une femme qui est venue et elle m'a dit « On t'amènera le bébé quand t'arriveras à bouger les jambes ». Et donc, je suis restée dans une chambre avec 3 autres femmes. J'avais la sonde, la perfusion, enfin voilà, tout ce qu'on tenait pour une chirurgie. Et donc moi j'essayais d'accélérer le processus le plus possible pour m'amener à Amadeo. Et il y avait une infirmière qui venait, et elle me disait « Alors, qu'est-ce que tu bouges ?» Et j'ai bougé les pieds, elle me dit « Non, il faut que tu bouges les genoux. » Et j'ai bougé les genoux. Et elle disait « Non, il faut que tu lèves les hanches. » Et moi tout ce que je voulais c'est qu'on m'amène à Amadeo.
Et ça passe avec mon fils et ça va llenar papeles.
L'infirmière, elle me ramène à Amadeo. Moi, j'étais sur le lit, allongée. Et elle passe avec mon fils dans les bras. Et elle s'en va remplir des papiers. Sans même se rendre compte, voilà, ni me dire, voilà, c'est ton bébé, je te le laisse à toi. Mais non, pas du tout. Elle va s'asseoir à un bureau qui était assez loin, situé à quelques mètres de là où j'étais moi. Et moi, je venais tout juste d'être opérée, donc j'avais pas une très bonne voix pour crier ou voilà ou pour l'appeler. Et je vois qu'elle s'assoit avec Amadeo et qu'elle commence à écrire et à remplir les formulaires. Et ça, je pense que je pourrais pas l'oublier parce que je me suis dit mais quel manque de tact. Pourquoi est-ce que tu m'amènes pas mon fils et puis voilà ensuite les papiers. Et voilà, j'ai regardé, et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment mal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce que je voulais, c'est avoir Amadeo avec moi, et elle a fini par me le ramener, et il reste avec moi.
Lo más loco es, creo que lo que tenía que vivir era ver la realidad social en la que vivimos, y lo que las mujeres atravesamos.
Le plus fou dans tout ça et ce que je pense ce que j'avais à vivre c'est de voir la réalité sociale dans laquelle on vit et ce par quoi nous les femmes on doit passer et ça je l'ai vu aussi dans la salle de pré-travail par exemple les femmes elles se regardaient pas entre elles et moi j'essayais de chercher le regard de l'une ou de l'autre pendant qu'il regardait mes papiers, mon dossier, je cherchais un regard complice, comme pour dire voilà, on est seul pour traverser ça.
Estamos solas en esta.
Prenons-nous les mains, enfin. Et non, il n'y avait personne qui faisait ça. Tu vois comme quand des gens sont résignés et puis ils vont et puis ils font ce qu'on leur dit de faire.
Yo tenía una compañera de ahí de cuarto que era una chica que era su cuarto hijo, tenía 20 y pico de años.
Il y avait une des filles qui était avec moi dans la chambre qui avait 20 ans et quelques, c'était son 4e enfant. Et elle, tout ça, elle le prenait vraiment très naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir maintenant. Moi, j'essaie de m'imposer, je suis énervée, frustrée, je me dis, non, ils ont gâché le plus beau moment de ma vie. Mais pour cette jeune fille, ça, c'était la chose la plus normale du monde.
Yo crecí en un ámbito urbano y en el cual es muy distinto el tema de la maternidad, digamos, cómo se encara.
J'ai grandi dans un milieu urbain où c'est très différent la façon d'envisager la maternité et comment on prend ça en charge. En général, les femmes y font des enfants quand elles sont plus âgées, avec un tas d'autres structures familiales plus réfléchies ou plus choisies. Et ici, la maternité s'est vue comme quelque chose qui arrive naturellement et qui n'est pas questionnée, à un âge que je trouve très précoce. Les femmes, ou beaucoup de femmes en tout cas, ou en tout cas c'est ce que je pense, ne décident pas si elles veulent être mères, mais elles vivent une sorte d'inertie où elles pensent et ressentent que c'est leur devoir. Et ça m'est arrivé avec beaucoup de personnes, des connaissances ou des proches, que ces personnes me fassent ce commentaire très souvent. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est pour quand? Et au bout d'un moment, ça a cessé d'être drôle. Et les gens ont arrêté de demander. Je crois que beaucoup s'imaginent qu'on a un problème de fertilité ou que je sais pas, que cette relation est en mensonge. En tout cas, ça n'existe pas la possibilité de décider de ne pas avoir d'enfant. Pour l'instant.
En el territorio hay muchas madres que han sido madres sin haber elegido ser madres.
Dans le territoire, il y a beaucoup de mères qui ont été mères sans l'avoir choisi. Et elles sont de très bonnes mères, très fières de leurs enfants. Mais peut-être, s'ils avaient eu plus d'outils, plus d'informations, ou la possibilité d'en discuter avec d'autres, peut-être ils auraient différé la maternité pour plus tard.
Avant d'apprendre que j'étais enceinte, j'ai eu comme une vision. En fait, j'ai compris que le devoir qu'on donne aux femmes d'être mères, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est une charge qu'on nous donne parce qu'on a la fonction reproductive, ce n'était pas obligatoire. Avant de savoir en tout cas que j'étais enceinte, je me disais, il n'y a pas de devoir d'être mère, ce n'est pas une nécessité, etc. Et en même temps, je me suis rendu compte que j'étais enceinte et je l'avais choisi. Et bon, on est en train de vivre cette aventure-là.
Je me quedé pensando en algo, pero porque ahora empecé a trabajar con jóvenes, mujeres de sectores más bien de clases sociales bajas.
Moi, j'étais en train de penser parce que là, j'ai commencé à travailler avec des jeunes femmes de classe populaire. On leur a bafoué beaucoup de droits, en fait, notamment celui de vivre avec leur famille. Et du coup, elles vivent dans des foyers que l'État a mis à disposition pour ce genre de situation. Et en parlant avec elles de la maternité, pour elles, c'est quelque chose qui est très lié au fait d'être une femme. L'une d'elles qui était enceinte, et on parlait de ce qui allait se passer pour elle, je lui ai demandé, et toi, pourquoi tu veux être mère? Et elle me disait, pour moi, être mère, c'est la seule manière d'avoir quelque chose à moi, quelque chose qui m'appartient, que personne ne va pouvoir me retirer. Et donc, en parlant avec les autres, on en débattait, on s'est rendu compte que c'était un sentiment partagé, qu'être mère, c'est le rôle le plus important pour être femme, pour ces jeunes-là, adolescentes de 16 ans. C'est la manière d'être quelqu'un, d'exister. Et nous, en fait, on a pu penser à étudier, à travailler, à vivre la liberté sexuelle d'une autre manière. Donc, en fait, c'est un vrai défi, quoi, de porter le regard sur ça, sur qu'il y a d'autres manières de se construire comme femme, notamment quand le poids de la classe sociale est lourd et qui fait qu'il n'y a pas d'autre échappatoire pour être femme.
Dentro del feminismo, algunos se posicionan tan discutiendo la maternidad como mandato obligatorio que pareciera que el ser madre es algo malo, una traición al movimiento.
Au sein du féminisme, il y en a certains qui questionnent l'injonction à être mère, qui entonces, sous-entendent que être mère, c'est quelque chose de mal, que c'est une trahison au mouvement. Mais c'est aussi bien de penser à qu'est-ce qui se passe avec les femmes qui ont envie d'être mère. Et du coup, c'est important d'être attentive à qui désire l'être et qui désire ne pas l'être. Et pour celles qui ne veulent pas l'être, voir quels outils elles ont pour respecter ce désir qu'elles ont.
De hecho, creo que hubiese sido madre antes, me hubiese gustado, pero bueno, por un montón de cosas. Por esto, de que uno va como si sos mujer y no te desarrollas profesionalmente.
D'ailleurs, ça m'aurait plu de devenir maman avant. Mais bon, pour plein de raisons, parce que si t'es femme et que tu développes pas ta carrière professionnelle et que tu deviens mère, t'es un peu moins que rien, quoi. Et entre nous, en tant que femmes, on se juge continuellement. Ça, on le ressent, ou en tout cas, moi, je l'ai bien ressenti. Mais en tout cas, oui, ça a été complètement choisi, je voulais devenir maman et j'adore. Je me plains tout le temps, mais j'adore. Vicente va avoir 4 ans, Antonia n'a même pas 2 ans, et elle, elle n'a même pas 4 mois. Ben, Anna, elle est avec nous, Anna. Et du coup, oui, ils sont encore tout petits, on est en plein dedans. On ne peut pas s'asseoir 5 minutes, quoi. Et un truc que tu sens, au moins que moi je le sens dans cette étape, c'est que c'est difficile de se sentir bien et confortable en tant que femme. Et du coup, la question du couple est difficile à gérer aussi. Bon, je me rends compte que j'utilise beaucoup le mot « difficile ». Il faudrait peut-être que j'arrête de l'utiliser, mais en vrai, c'est un peu ce que je ressens. Quoi. Et là, ça me fait penser à la lecture, où j'avoue, j'ai 2 livres de commencer que je lis 3 pages par-ci, 3 pages par-là, quand je vois qu'il y a moyen de se poser un peu. Mais là, j'ai adapté mes attentes. Quoi. Je me dis plus que je vais regarder un film parce que je sais que je vais pas pouvoir le regarder jusqu'au bout. Et j'essaye de ne pas perdre ces choses-là pour ne pas me perdre moi-même. Mais bon, je sais que j'ai un peu mis de côté certaines choses, la lecture, les livres... Et la spontanéité, je suis obligée d'être beaucoup plus organisée. Et en perdant cette spontanéité, j'ai aussi perdu une partie de ma personnalité, en fait. Où moi, j'étais plutôt du genre à ne pas savoir à 20h ce que j'allais faire de ma soirée. Et là, t'as un pote qui t'appelle, vas-y, on sort, et hop là, c'était parti, quoi. Et bon, là, ça n'existe plus. Il n'y a pas trop moyen que ça existe en ce moment. Mais oui, je me sens bien entourée, surtout par lui, ce qui me semble fondamental. Et aussi dans le village, petit à petit, j'ai rencontré d'autres femmes qui te proposent un coup de main, qui sont à l'écoute, qui te comprennent et qui, sans se rendre compte, te rendent ta vie un peu plus légère, ce qui est cool. Genre, t'as un truc à faire, on te propose de garder tes gamins. Et voilà, petit à petit, on a rencontré enfin... Enfin, moi, j'ai rencontré cet espace dans le village. Et puis aussi, en commençant par mon partenaire, à la maison, c'est un vrai Tetris, quoi. J'arrive, il part, je repars, voilà. Et parce qu'en fait, même s'il y a des exceptions, des périodes de crise où c'est un peu compliqué... Il faut qu'on s'organise ces espaces-là, parce que sinon, ça peut devenir vite injuste, vraiment très injuste, quoi. Parce que, en vrai, rester toute la journée à la maison avec les enfants, c'est épuisant. Et c'est dont on parlait tout à l'heure. On a besoin d'être un peu tout, quoi. Et à la fois une bonne mère, mais aussi de prendre du temps pour soi. Et si on n'a pas ce soutien-là dedans, c'est pas possible, quoi. Si on n'est pas entouré de personnes qui vivent un peu les mêmes choses que nous et qui ont un peu les mêmes besoins, ça devient vraiment difficile.
Et du coup, ouais, moi je me sens de plus en plus accompagnée en fait. Par contre, j'aspire à ce qu'ils deviennent indépendants. Ça ne veut pas dire que je veux qu'ils partent, hein, mais je veux bien qu'ils gagnent une indépendance sur certaines choses. Aller venir, se faire à manger, ils n'aient plus trop besoin de ma présence, quoi. Et il y a du boulot. Il faut le construire. Il y a des gamins à 14 ans, parce qu'ils sont toujours des gamins à 14 ans, qui continuent à être 100% dépendants de leurs parents. Moi, j'ai envie d'essayer que ça ne soit pas le cas et que ça me libère certains espaces.
On sait où on peut aller.
C'est quelque chose qui se dit tout bas, en secret,
mais
tout le monde sait.
Je crois que si l'avortement fossait légal, vous pourriez, comme femme, aller à une clinique ou à un hôpital.
Je pense que si l'avortement était légal, tu pourrais, en tant que femme, aller dans une clinique ou un hôpital où on s'occuperait de toi, au lieu de te retrouver comme aujourd'hui dans un endroit clandestin où tu n'as aucune sécurité et dont tu n'es même pas sûre de sortir vivante.
Sacarlo a la luz y dejar de que sea invisible es el primer gran paso.
Mettre tout ça au grand jour et sortir de l'invisibilité est le premier pas. Et c'est une question de temps, ça va finir par devenir légal. Parce que c'est une nécessité. Ça devient de plus en plus tangible et c'est trop super.
Moi, j'ai jamais avorté. Par contre, j'ai accompagné deux femmes qui elles ont souhaité avorter. L'une d'entre elles, c'était une très bonne amie. On avait 18 ans, on était au lycée. Elle est tombée enceinte et elle n'a pas voulu le garder et on l'a accompagnée dans cette décision. C'était une expérience assez dure, dans la clandestinité bien sûr, parce que sa mère ne le savait pas, sa famille ne le savait pas. Alors nous, son groupe d'amis, on l'a accompagnée. À ce moment-là, je ne me souviens plus combien c'était, mais ce n'était pas énormément d'argent. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés vraiment dans un endroit pas bien du tout. Et ensuite, mon autre amie qui a décidé d'avorter, là par contre, la situation a été complètement différente. Elle, très naturellement, elle a dit non, mais moi je ne veux pas de bébé. Elle a trouvé l'argent, elle s'est fait avorter. Et ça n'a pas été aussi sombre.
À partir du moment où j'ai voulu le faire, j'ai été accompagnée d'un groupe de personnes à Cordoba, un groupe qui se consacre à l'accompagnement des personnes qui veulent avorter. Donc ils donnent des informations sur comment faire et ils font un suivi. Le groupe s'appelle les secouristes. Maintenant, c'est beaucoup plus connu qu'avant. Maintenant, c'est de notoriété publique. Et alors qu'avant, elle se faisait connaître surtout par le bouche à oreille. Donc le processus est le suivant. En gros, il y a une petite discussion et après un questionnaire avec des questions sur les conditions de vie de la personne, ce que la personne vit actuellement, etc. La pilule s'appelle misoprostol. En gros, c'est des pilules qui sont interdites à la vente. Et le groupe est en contact avec des professionnels qui se chargent d'obtenir ces pilules, qui ont un coût. Et donc il faut payer.
Bueno, eso tiene un costo, hay que pagarlo y te asesoran en relación a que bueno, cuando uno hace todo el proceso, tiene un número de teléfono de un acompañante que le asignen.
Ensuite, ils te mettent en relation en gros avec une accompagnante, ils te donnent un numéro et tu es suivi. Ils te donnent une fiche d'information sur comment c'est censé se dérouler de manière normale et face à quelle situation anormale tu dois aller aux urgences.
Uno tendría que dirigirse a urgencias. Luego de eso es un tiempo que ellos determinan para hacer un control de que todo ha salido bien. Sí, bueno, todo.
Y a la fin de tout ça, il y a un temps que eux déterminent pour faire un contrôle et vérifier que tout s'est bien passé. Et pendant tout le temps du processus, il y a des échanges avec eux.
Y luego la última vez se va a un consultorio.
Donc, en tout dernier, il y a une consultation, ils font une échographie pour voir si tout va bien, il y a une petite discussion, et après, il y a un appel au téléphone qui clôt le processus.
Con el día de la marcha del 8M, hubo muchas discusiones que yo tuve con mis amigos varones.
Avec les manifestations du 8 mars, il y a eu beaucoup de débats avec mes amis hommes sur le fait que, non, les hommes, vous n'allez pas venir à la manif. Du coup, même s'ils n'ont pas une construction de la masculinité hégémonique, ils disaient, mais pourquoi on ne peut pas y aller? En fait, moi, ce que je pensais, c'est que le binarisme, parce que c'est bien le binarisme qui nous opprime, le fait d'être femme, de se penser comme femme, d'avoir été sociabilisée dans le genre femme, féminin, parce qu'on a des chromosomes XX, parce qu'on a des caractéristiques physiologiques qui font que on est femme, c'est ce qui donne lieu à la sociabilisation comme femme et aux violences sur les femmes. Donc dans une manif, au-delà du fait que tu sois un homme déconstruit socialement, que tu aies une masculinité non hégémonique, ta présence en tant qu'homme, le fait d'être lu comme homme, ça a un impact. C'est pour ça qu'on utilise ces identités binaires hommes et femmes.
Tan linda esa sensación de saberte que no estás sola y la complicidad que se genera en la misma calle.
C'est tellement beau cette sensation de pas être seule, de sentir cette complicité dans la rue et dans l'anonymat. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu la regardes, tu dis rien, mais tu sais que c'est une alliée, que t'es plus seule.
5 ou 6 ans atrás.
Il y a 5 ou 6 ans, j'avais jamais participé à un cercle de femmes. Et c'était pas quelque chose qui m'attirait. J'avais plutôt des amis hommes. J'étais aussi plus cynique, j'avais une autre manière de voir les choses. D'un coup, je suis arrivée ici et petit à petit, j'ai commencé. J'ai commencé à me réunir avec d'autres femmes et on était toutes très différentes. Et toutes, elles avaient quelque chose de différent à dire. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît super intéressant. Plein de mentalités différentes et quelque chose en commun. Et si je dois te résumer en quelques mots, que c'est pour moi que circuler et me retrouver avec d'autres femmes, c'est me sentir plus forte.
Morena, mi Paula, yo tengo 14 y yo 13.
Je m'appelle Lorena, j'ai 13 ans, et moi Paola, j'ai 14 ans. On est des filles, nous aussi. On n'a pas envie de vivre la même chose que ce que les femmes vivent aujourd'hui, ni ce qu'elles ont traversé avant. Et c'est pour ça qu'on manifeste dès aujourd'hui, pour mettre tout de suite au clair ce qu'on veut pouvoir faire quand on sera grande.
Ici à Salta, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de centres culturels qui se consacrent à l'éducation et surtout à construire de l'empouvoirment féminin. Et à comment faire face à ce type de situation pour ne pas qu'elles se produisent. Ou si elles se produisent, il y a plein de numéros qu'on peut appeler pour dénoncer sur le moment. Il y a aussi un groupe WhatsApp pour faire appel à du soutien rapidement. Oui, il y a beaucoup d'organisations. Il y a des rassemblements presque toutes les semaines concernant les violences faites aux femmes ou la disparition des femmes. Il y en a vraiment très souvent.
Les rencontres nationales de femmes sont plus âgées que moi. Ça fait 32 ans qu'elles se font.
L'extension du féminisme, ça vient de là, en fait. Le féminisme a étendu ses mots d'ordre en s'identifiant plus seulement comme un mouvement de femmes. Au départ, c'était un mouvement de femmes, des femmes, qui faisaient cette division binaire, et ça a évolué. Et en plus, au départ, elles étaient très peu. Maintenant, on était combien à la dernière manif ? 60 000 femmes à la dernière rencontre. Donc, faire partie d'un tel mouvement, moi, j'avais jamais ressenti quelque chose de si fort de toute ma vie. J'ai pas un passé militant, dans un parti politique, par exemple, mais voir cette manif, c'était... Enfin, plus particulièrement cette manif, c'était quelque chose de très fort. C'est ce qu'elle disait dans toutes les rencontres, les femmes. Une femme n'est plus la même après être allée à une rencontre. Et ouais, c'est incroyable.
Merci à Pauline, Louison, Anaëlle, Isabelle, Michel, Liana, Angela, Steph, Caro, Léna, Beltane et Bleuem de nous avoir prêté leur voix pour les traductions françaises.
Vous pouvez retrouver les deux parties de cette émission en castillan et en français sur la plateforme Hear This, hearthis.at/lacucaracha. Bonne écoute!
Quand sa cintura se menea, me distrae, me marea, tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. No puedo sacarle la mirada. Sacarla de mi mente en toda la semana. Cuando ella despliega sus pasitos, yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas. No puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar.
la casa.